À vous la suite. À toi de voir, de Luc de Flot. Début du livre. La bibliothèque d'éclat vous propose de jouer avec elle. Qui aura la meilleure intuition? Qui comprendra le mieux les personnages, leurs sentiments et leurs intentions? Vous allez entendre dans quelques instants le début d'un livre, légèrement retravaillé pour ne pas être trop long. Nous vous proposons d'essayer de deviner ce qui arrive dans la suite de l'histoire. Vous pourrez nous communiquer votre réponse par message audio, par mail ou même par téléphone. D'ici 15 jours, nous vous enverrons la fin qu'a choisie l'auteur. Le livre est bien sûr disponible à la bibliothèque si vous souhaitez le découvrir dans sa version intégrale. Bonne écoute.
Chapitre 1. Tu as un petit air de Sophia Loren jeune. Elsa Quiscater entendait souvent ce compliment. Elle le prenait avec le sourire, même si elle n'était pas d'accord. Elle avait les yeux expressifs de l'actrice, certes, mais sa bouche pulpeuse était nettement plus sensuelle que les lèvres peinturlurées de l'italienne sous son nez trop pointu. Elsa ne manquait pas de présence, et elle vivait grand train. Elle n'avait pas à se plaindre à ce sujet. Malheureusement, elle n'avait pas encore trouvé de Carlo Ponti à la bourse bien remplie. Se détournant de son reflet dans le miroir, Elsa entra dans le salon de son luxueux penthouse, juché au dernier étage du domaine de l'observatoire à Uccle. Arrivée à la fenêtre coulissante qui donnait sur les 100 mètres carrés de la terrasse, elle jeta un œil au dehors. Ses sombres pensées l'empêchèrent d'être aussi captivée qu'à l'accoutumée par la magnifique vue sur cet écrin de verdure situé au cœur de Bruxelles. On sonna à la porte. Elsa attrapa son sac Delvaux sur le sofa design en cuir rouge et se hâta jusqu'à l'interphone. « Un moment, je descends. » Dans le vestibule, elle releva le col de son tailleur rose et ouvrit la porte de l'appartement. Elle s'immobilisa un instant, la main sur la poignée. C'était peut-être une des dernières fois qu'elle répétait ses gestes, maintenant que Roman avait clairement préféré sa femme et lui avait communiqué son intention de ne plus payer le loyer. Elle appela l'ascenseur en tapotant nerveusement le marbre noir du couloir de la pointe de ses escarpins YSL, Yves Saint-Laurent, comme si elle cherchait à écraser un insecte. Il lui avait dit ça, la larme à l'œil, le lâche. Sale traître. Non content d'avoir trompé son officiel, Roman avait donc aussi été infidèle à sa maîtresse attitrée. Si monsieur prétendait encore témoigner de quelque respect pour Elsa et ses sentiments, elle n'était pas dupe. Cet abruti avait juste peur qu'elle ne se venge en cafetant auprès de Bobonne, en lui racontant que cela faisait des années qu'il s'envoyait en l'air avec elle. « Triple imbécile, qu'est-ce que j'y gagnerais ?» marmonna Elsa. Il pensait vraiment qu'elle n'était qu'un morceau de viande sans cervelle, qu'elle était trop bête pour saisir les véritables enjeux. Cela faisait pourtant pas mal d'années qu'elle lisait discrètement les messages sur le téléphone de Roman pendant qu'il affûtait sa lance dans la salle de bain. Mais bien sûr, il restait plus facile de foutre sa maîtresse à la porte que son épouvantail officiel, car si jamais il lui faisait un coup pareil, sa femme ne manquerait pas de se barrer avec 50% des parts de leur boîte. L'ascenseur était arrivé. À l'intérieur, un vieux monsieur appuyé sur sa canne, un voisin sans doute, lui adressa un petit signe de la tête avec une feinte bonhomie qui n'arriva pas à dissimuler une lueur lubrique. L'aplomb du bonhomme contrastait avec sa vieille peau toute fripée. Elsa ravala un haut-le-cœur. « Qu'est-ce qu'il pourrait bien fiche au dernier étage ?» se demanda-t-elle en détournant le regard et en plissant les lèvres avec dédain pour concentrer son attention sur l'aluminium poli. Elle fit sauter une denille hors de son paquet. « Tout est lisse ici, » pensa-t-elle. « Les gens, les matériaux, tout. Lisse et froid. » À l'image de Roman, ce sale profiteur pour qui elle avait sacrifié les plus belles années de sa vie. La flamme était fine et élégante, comme son briquet du pont. Le petit monsieur toussa ostensiblement derrière le dos de sa main. L'ignorant avec superbe, Elsa tira une profonde bouffée et garda la fumée en bouche, le regard ardent. Lorsqu'un petit choc signala que l'ascenseur était arrivé à destination, elle en sortit élégamment en faisant claquer ses talons. Dans son dos, elle savait que le vieux croulant à l'allure de colonel à la retraite lui reluquait les jambes. Il faut dire qu'elles étaient à tomber sous sa mini-jupe cintrée. Le taxi, une Mercedes, l'attendait. À sa mine, elle sut que le chauffeur, un jeune immigré coiffé comme ils le sont tous, n'avait Dieu que pour son corps, au galbe parfait. Elle réagit comme elle réagissait toujours, face à cette sale engeance qui se donnait des airs d'aimant à femme, en lui lançant son regard de cobra, juste avant de lâcher son venin. D'un geste ample, elle jeta sa cigarette à moitié consumée dans le caniveau. Ah, les hommes ! Elle en avait assez, des hommes. Plus qu'assez. Ce jour-là, elle allait parler à une femme. Une femme qui répondait au doux nom de Francesca. Francesca d'Abruzzo. Chapitre 2. Edith Yampon était en chaussettes, face à son reflet dans le miroir de la salle de bain, dans sa chemise tout juste repassée, mais pas encore boutonnée. Il en releva les pans et se considéra longuement. Son caleçon tout neuf avait de l'allure, un caleçon de chez Avon. Ce n'était pas vraiment une marque du top absolu, comme Calvin Klein, mais ce n'était pas non plus le banal slip qu'on achète à la douzaine chez un soldeur. Il avait opté pour le bon compromis, pour ainsi dire, l'option du bon sens. Il avait longuement hésité, mais les prix qu'ils affichaient pour les grandes marques étaient tout bonnement déments. Tout ça pour un caleçon, un bout de tissu qui restait le plus clair du temps, caché sous le pantalon. « Non merci », avait-il pensé, « on ne m'aura pas ». Celui-ci, de chez Avon, était très bien. Gris foncé, avec une bande grise, discrète, comme une mer, et une fine ligne de vagues. La seule fausse note dans le paysage était cette grosse île blanche, là, au milieu. Eddie rentra le ventre, mais ne tint pas plus de 10 secondes dans cette position. Après tout, il avait déjà 45 balais. À cet âge, on ne peut pas s'attendre à ce que toutes les lignes soient parfaitement droites. Avant de boutonner sa chemise, il devait s'occuper du petit point noir qu'il venait de repérer sur le bout de son nez. Il le pinça entre les ongles de ses pouces et camoufla la marque rouge avec une noisette de crème. Il s'adressa un clin d'œil dans le miroir. Oui, pas mal. Il préféra ne pas trop s'attarder sur sa coiffure, vaine tentative de coupe militaire avec trop peu de matière pour arriver à un résultat satisfaisant. Les coups de peigne lui irritaient le cuir chevelu et provoquaient une pluie de pellicules. Le gel n'arrangeait vraiment rien. Un jour, il se résoudrait à raser tout ça. Il devrait bien finir par y passer, comme certains de ses jeunes collègues au boulot. Mais pas aujourd'hui. Elle était habituée maintenant. Il ne fallait pas risquer qu'une métamorphose aussi radicale que soudaine ne l'effraie. Il ne voulait pas passer pour quelqu'un d'imprévisible à ses yeux, mais bien au contraire, lui donner une impression de stabilité. Et puis, cette manie qu'avaient ses jeunes collègues de se raser le crâne n'était pas vraiment une déclaration d'indépendance d'esprit, mais plutôt l'inverse. Ne pas arriver à vivre avec sa calvitie n'était-ce pas plutôt un signe de faiblesse? En plus, pour une femme mûre, l'aspect physique était moins important, il le savait. Elle cherchait avant tout la stabilité, un homme à qui se fier, aveuglément. Les vraies femmes ne tombaient pas amoureuses d'une bombe de testostérone aux mâchoires carrées. En revanche, elles raffolaient des hommes sensibles qui n'avaient pas peur de montrer leurs émotions. Alors qu'il boutonnait sa chemise, le doute le reprit. Cet éternel doute. Autant il se montrait décidé et déterminé dans son métier d'analyste informaticien, autant il s'avérait indécis dans sa vie privée. Et si Francesca aimait ça, les fessiers bien musclés? Il n'avait encore jamais abordé la question, pas plus qu'ils n'avaient échangé leurs vues sur nombre de sujets essentiels. « Mais ça peut toujours venir », pensa Eddie, alors qu'il nouait sa cravate, qu'il avait choisie grise, avec une petite ligne bleue, pour la sortir parfaitement à son slip. Il défit le nœud en fronçant les sourcils. Pourquoi porter une cravate? Il pouvait donner une image de lui plus décontractée pour une fois. Depuis le temps, Francesca savait à quoi s'attendre avec lui. Elle savait qu'il n'était ni un fainéant, ni un clochard, et bon, d'accord, pas un tombeur non plus. Que ce n'était pas son genre d'aller voir les prostituées, et que dans son esprit, elle était une femme adorable, à la recherche du grand amour. Eddie visa nonchalamment le séchoir. Il manqua son coup, mais refusa de se soumettre au destin en ramassant sa cravate, qu'il voyait comme l'équivalent masculin du voile. « C'est moi le boss, c'est ma maison, c'est moi qui décide. » Il enfila son pantalon en fibre synthétique noire sur ses maigres mollets. C'était un modèle confortable, qui montait assez haut pour dissimuler un peu son ventre, et qui s'ajustait toujours bien grâce à l'élastique intégré à la taille. En plus, il ne fallait pas le repasser. Il restait toujours élégant, avec son pli imprimé sur toute la longueur des jambes. le fait que son blazer était d'un noir un peu plus clair que son pantalon était largement compensé par le discret logo sur sa poche de poitrine, qui, même si la petite broderie dorée ne représentait rien de concret, donnait quand même un certain cachet à l'ensemble. Une fois en manteau, Eddie entra dans la cuisine, prit la rose blanche qui attendait dans le pot de confiture reconverti en vase, l'embrassa et marcha d'un pas léger vers la porte d'entrée, confiant. Aujourd'hui, il lui ouvrirait son cœur. Fini le temps des plaisanteries, fini de jouer le rôle du bon petit gars. Aujourd'hui, il la demanderait en mariage. Il n'hésiterait pas et il n'aurait pas besoin de Xanax. Non, il lui parlerait en y mettant tout son cœur. Il avait longuement réfléchi à la bonne formulation. « Veux-tu m'épouser ?» Bof, ce n'était pas l'option la plus originale. « Veux-tu passer ta vie avec moi ?» Non, trop formel. « Ô toi, mon doux amour, avec toi je veux être toujours. » Ça pouvait passer, mais les autres poèmes d'amour qu'il avait dénichés sur Internet ne valaient pas tripette. Trop confus, pas assez concret. Il fallait y mettre les formes, certes, mais surtout, le message devait être clair. Au final, l'idée lui était venue d'elle-même, alors qu'il réfléchissait aux paramètres de différenciation liés au genre dans un modèle socio-économique intégré. « Chère Francesca, mademoiselle d'Abruzzo, de tout mon cœur, je vous prie, je vous invite, je vous convie à vivre votre vie sous le nom de Madame Tiens-Pont. » récita Eddie avec emphase à l'adresse de sa future chère et tendre. Ça sonnait bien. Il suffirait de marquer des pauses, d'adopter les bonnes intonations, la bonne mimique. Il fallait surtout que cela soit sincère, que cela vienne du cœur. Assez logique, finalement. Il s'était suffisamment entraîné devant le miroir. Eddie sortit de chez lui, mais rentra aussitôt pour retourner dans la salle de bain. Avec un sourire satisfait, il accrocha la cravate au crochet prévu à cet effet. Chapitre 3. Tu penses encore aux vacances de Pâques, chaton ? Eva acquiesça. Marc Donden but avec délectation le fond de son café, un café bien fort, comme seule son Eva savait les préparer. Depuis leur fantastique voyage à Florence, elle n'utilisait plus que leur cafetière Bialetti pour deux tasses qu'ils avaient achetées là-bas. Ils partaient souvent, au moins deux fois par an, pour des escapades, rien qu'à eux deux. C'était systématiquement Eva qui choisissait non seulement leur destination, mais aussi toutes leurs activités. Elle définissait jusqu'au moindre détail du programme. C'était comme une seconde nature chez elle. « Bien, » dit Donden, avec un bref regard sur sa tisseau. « Il va falloir que j'y aille. » Eva fit oui de la tête, prête à accompagner son mari jusqu'à la porte d'entrée, selon leur rituel, de même qu'elle avait l'habitude de quitter le lit conjugal un quart d'heure avant lui, pour préparer le petit déjeuner. Des détails comme cela ancraient leur relation dans une belle stabilité. « Tu m'aimes ?»« Oui, je t'aime. » Donden embrassa furtivement son épouse sur la joue. Habillée avec élégance, le délégué commercial ramassa son attache-à-caisse sur la chaise de la cuisine et sortit de la maison d'un pas guilleret. Il se glissa en souriant au volant de sa BMW 420D prise en leasing. Il caressa les délicates finitions en peau de velours du volant, ferma les yeux et savoura l'instant. Ah, une merveilleuse journée aux perspectives incroyables s'annonçait. Ah, ce que la vie est belle, tellement belle! D'un geste de la main, il envoya un baiser à son Eva. Depuis le pas de la porte, elle eut un sourire vague. Elle était encore en peignoir, elle ne travaillait pas. C'était une décision qu'ils avaient prise d'un commun accord. Donden s'apprêtait à partir quand il vit les lèvres d'Eva remuer. Elle voulait dire quelque chose. Ça le mit à cran, mais il continua à sourire en baissant la vitre de la BMW. « Oui, chaton, quand rentres-tu »« Tu n'as pas cours ce soir ?» répondit-il, élu dans la question. Eva tira sur le col de son peignoir et fit signe que non. « Soit, ça ne fait rien. Ne m'attends pas. Il n'est pas impossible que je rentre tard. Je dois aller jusqu'à Malines. Réception du personnel chez D'Argenteuil. Malheureusement, je ne peux pas y couper. » Eva acquiesça, elle comprenait. « Mais je me rattraperai ce week-end, promis. Tu peux choisir, italien ou chinois, d'accord ?» Eva fit oui de la tête. « Sois prudent sur la route. » Donden lui décocha un clin d'œil malicieux, à la manière de Robert De Niro dans ses belles années. Eva sourit comme elle souriait toujours quand il faisait le clown. Fin du premier acte, pensa Donden, concentré sur la vitre qui se refermait lentement, avant d'envoyer un dernier baiser vers sa Mona Lisa. La BMW s'éloigna dans un nuage de gaz d'échappement, emmenant un Donden prêt pour le deuxième acte, et le troisième, et le quatrième, et si le besoin s'en faisait sentir, le cinquième. Rien, vraiment rien, ne pourrait le faire changer d'idée. C'était un positif de nature, un vainqueur. Les gens se sentaient à l'aise avec lui, parce qu'il leur donnait l'impression de compter, d'avoir de la valeur, ou du moins un peu plus de valeur que leur quote-part réelle dans la société, qui était en soi faible, voire inexistante. C'était comme ça. La vie de délégué commercial était rude, mais tout n'était pas que tristesse et désespoir pour autant, bien au contraire. Il suffisait que les chiffres soient là, en fin d'année. Son boulot avait ses bons côtés. Il lui offrait notamment la liberté d'organiser son emploi du temps comme bon lui semblait. Ainsi, il pouvait s'éclipser un moment et décider de laisser derrière lui le ring de Bruxelles et ses embouteillages pour se glisser bien tranquillement dans les petites rues d'Uccle et aller voir Francesca. Francesca d'Abruzzo, la pute à la bouche d'ange. Chapitre 4. Toubib, spécialiste, infirmière, kiné, diététicienne, psy, assistants sociaux. Ça n'arrêtera donc jamais. C'est à se taper la tête contre les murs. J'en ai ma claque. Comme s'il n'avait pas assez d'ennuis comme ça, ce connard de pneumologue y avait mis du sien en lâchant le mot « greffe ». Il a beau jeu, lui. Je croule déjà sous les factures. Payé, toujours payé. Dominique de Storm poussa un profond soupir. Lorsque sa Toyota, une Hilux de 1987, avec plus de 250 000 km au compteur, commença à tout sauter sur les pavés, il fronça les sourcils et tendit l'oreille, partagée entre frustration et incompréhension. Ses jurons emplirent l'espace confiné de la voiture et il faillit bien cracher ses poumons dans ce soudain accès de colère. Pas de doute, ce fameux bruit, là, sous le châssis, n'avait pas disparu. En clair, cet enfoiré de garagiste, ce nabo qui avait prétendu que le problème était résolu, n'avait rien foutu de bon. Enfin si, il l'avait allégé de 150 euros. Ce voleur n'avait probablement même pas pris la peine de descendre dans la fosse de son garage, alors que Dominique de Storm était quasiment sûr que le problème venait de l'arbre de transmission, du côté du différentiel. Il s'y connaissait un peu en mécanique, suffisamment en tout cas pour arriver à cette conclusion. Mais malheureusement pas assez pour régler le problème lui-même. C'était d'ailleurs un peu le fil rouge de sa vie pourrie. Et en sortit un mouchoir d'une propreté toute relative. Il n'y avait pas de sang dedans, cette fois-ci. Encore heureux, car en tant que petit indépendant, il ne pouvait pas compter sur grand-chose, pour ne pas dire sur rien du tout, en cas de pépin de santé. Et si ce bruit annonçait vraiment un souci avec les vitesses, une autre facture salée l'attendait, lui qui n'avait déjà plus un copec en poche. De Storm essaya de chasser cette funeste pensée de son esprit, car que ce soit pour un mieux ou pas, avec ou sans bruit sous le châssis, il était sur la route et pas chez lui à se morfondre. C'était un des rares avantages de sa vie d'indépendant, sous prétexte de travailler encore et toujours travailler, n'en faire qu'à sa tête. Par le passé, il avait aussi bossé pour un patron, dans le bâtiment, pour se faire la main et apprendre les ficelles du métier. Quand les problèmes à la maison avaient commencé à dégénérer, il avait franchi le pas et s'était mis à son compte. Pas pour gagner plus, mais surtout pour faire plus de noir. Car s'il venait à l'idée d'un imbécile dans sa situation d'essayer de s'en tirer avec des revenus déclarés, c'était la garantie de se retrouver totalement plumé en moins de deux. Malgré ce travail au noir et le fait qu'il s'était fait déclarer insolvable, sa vie n'avait vraiment rien du conte de fées. Il devait bien l'admettre, même si travailler pour un patron pouvait être abrutissant, ça assurait quand même des rentrées régulières. Alors qu'en tant qu'indépendant, les fins de mois n'avaient aucun putain de sens. Pourtant, Dominique de Storm savait faire un peu de tout. Maçonnerie, excavation, démolition, peinture, enduisage, plomberie, électricité, menuiserie. Il débouchait même les fosses septiques. Le fait qu'il n'était vraiment pro dans aucune branche ne le tracassait pas, même si ce n'allait pas sans causer quelques problèmes avec certains clients. Il fallait bien dire que l'énorme majorité d'entre eux n'étaient que des cons qui n'avaient rien à dire. Des incapables infoutus de réparer eux-mêmes une fuite de robinet. Ils arrivaient quand même à pousser un coup de gueule et à exiger que ça ne leur coûte pas un bal. Non mais oh, faut pas pousser non plus. Au final, on a ce pourquoi on paie, non ? Point à la ligne. Heureusement, ils n'étaient pas tous comme ça. Il y avait aussi des clients gentils, comme Francesca. Elle ne se plaignait jamais de son travail. Il faut dire que la bouche peine, c'est pas évident, pensa de Storm en souriant. Il se renfrogna. Il venait de repenser au dernier coup de fil de la pute. Pas question de bouche pleine cette fois. Francesca ne l'avait pas appelé pour se plaindre, ça non, mais elle lui avait quand même dit très sérieusement qu'elle ne souhaitait plus faire appel à ses services. Il avait répondu qu'il passerait avec plaisir de temps en temps pour vérifier qu'il n'y avait pas un petit boulot ou l'autre à faire. Mais elle s'en était sortie avec une pirouette pour refuser sa proposition. Elle l'appellerait elle-même en cas de besoin. Ça avait été pire qu'une plainte. C'était comme si elle lui avait flanqué une vraie gifle. Mais il avait pris sur lui et était parvenu à tenir sa langue. Il avait l'habitude de se faire rembarrer, au téléphone en tout cas. Là, les gens avaient tous une grande gueule. Pas comme dans la vraie vie, quand on se retrouvait face à eux. Dominique de Storm jeta un regard dépité dans le rétroviseur. Il était en colère contre lui-même. Il ne voulait pas rouler jusque chez Francesca, mais c'était plus fort que lui. Cette bonne femme, il l'avait dans la peau. « Putain de merde, Francesca » cria-t-il en se grattant l'entrejambe. Surveillant la route d'un œil et tenant le volant de la cuisse, il se roula nerveusement une cigarette. Ce ne fut qu'au moment de porter le papier à ses lèvres qu'il se rendit compte que la colle était du mauvais côté. Les insultes fusèrent à nouveau dans l'habitacle usé du pick-up. Lorsque le feu passa à l'orange, il donna un coup de gaz plein de frustration. Chapitre 5. Marc Donden se targuait de ses réflexes de léopard et les 163 chevaux sous ses fesses avaient la puissance de freinage qu'on pouvait attendre d'une BMW 420D. Il évita la collision de justesse. Sa main droite enfonça le klaxon. Le conducteur du pick-up pourri, un macaque mal rasé qui roulait sans les mains et n'avait probablement même pas vu la manœuvre, lui fit un doigt d'honneur. Donden jura, mais retrouva immédiatement son self-contrôle. Au lieu de s'arrêter, il mit les gaz et fit crisser les pneus pour griller la politesse à une tortue et s'éloigna en trombe. Il n'allait pas se laisser gâcher cette journée, pas par un gros tas puant et encore moins par un stupide accident. L'incident déjà oublié, Donden fit glisser sa main sur son crâne rasé de près, s'adressa un clin d'œil dans le rétroviseur et, malgré la grisaille, chaussa ses rébanes. Elle avait à nouveau répondu de sa belle voix rauque au téléphone, comme la première fois qu'il l'avait appelée. Pendant sa pause de midi, depuis la ligne fixe d'un collègue. Mais elles avaient toutes ce type de voix chaude et sexy, même les putes qui officiaient en vitrine, rue d'Arscott, à Scarbeck, où il se sentait un peu comme chez lui. C'est pour ça qu'il était allé en reconnaissance. Il vaut toujours mieux tâter la marchandise avant de l'acheter. Waouh ! Honnête, pas trop cher, un esprit ouvert, une âme sensuelle, le petit coquin en prime. Une folie. Mais elle l'avait accueilli, comme si elle sortait d'un décor de film porno, ou plutôt d'un film érotique, doté d'un peu plus de budget. Ça aurait été du gâchis de la baiser directement. Il avait préféré se retenir. Ça ne s'était fait qu'une semaine plus tard. Il s'en était pas mal sorti, oui. Ça avait été chaud, même. Il avait bien fait de s'octroyer ce petit délai. Belle à mourir, avec son petit cul rebondi et son balcon pas siliconé pour un sou. Elle avait des tétons hyper réactifs, une chatte accueillante et des lèvres pulpeuses. Il l'avait fait jouir deux fois, et il était certain qu'elle n'avait pas simulé. Le pied, mais le pied. Il était bien monté, mais il n'était pas convaincu que cela avait fait la différence. Enfin, ça aidait toujours. Les femmes ne résistent pas à un type qui en a entre les jambes. J'avais une de ces tricks. Les doigts de Donden passèrent une fois de plus sur son crâne bien lisse. Ses yeux brillaient de plaisir, rien qu'à convoquer le souvenir de cette partie de jambes en l'air. Donden prit une profonde inspiration, s'astiqua les dents de son index et donna un nouveau coup de gaz. Chapitre 6. Eddie Tiampon se sentait coupable. Il se faisait l'impression de ne pas valoir davantage que tous ces hommes infidèles qui fondaient sur les femmes sans état d'âme avant de les abandonner à leur triste sort. Il n'aurait pas dû venir. Il se sentait mal à l'aise. Il était arrivé tôt, car Francesca lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de prendre rendez-vous s'il passait avant 9h. Tandis que sa rose blanche, symbole d'amour éternel et de confiance, se desséchait dans la cuisine, voilà qu'il se retrouvait à fixer le plafond d'un regard vide, tel un cadavre à qui on aurait oublié de fermer les yeux. La main rugueuse d'une Polonaise lui pétrissait le sexe, pour le moment réduit à l'état de limace. Eddie repensa au début de cette galère. Il avait sonné et avait sorti son habituel « Coucou ! C'est Eddie. » Quand la porte s'était ouverte, il s'était glissé à l'intérieur comme une ombre, toujours avec cette pointe de timidité, alors que tout de même, c'était bien sa 10e ou 11e visite. Mais bon, ça faisait en quelque sorte partie du rituel. Par habitude, il s'était dirigé droit vers la chambre de Francesca, sur la pointe des pieds, se réjouissant à l'idée de ce qui l'attendait. Bavardages et câlins, elle et lui, blottis l'un contre l'autre dans son grand lit. Il avait donné 4 petits coups à la porte. Pas la moindre réaction. Il avait trouvé ça étonnant. Après un long moment d'hésitation, il avait enfin essayé la poignée. Non pas par audace, mais parce qu'il s'inquiétait. Il avait même eu un peu peur que quelque chose ne soit arrivé à son petit trésor en sucre. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait cette angoisse infondée. Eddie avait peur en permanence, au point qu'il ne s'en rendait presque plus compte. La peur avait fini par faire partie de sa vie. Il avait frappé une seconde fois, en chuchotant le nom de Francesca. Puis, il avait regardé par le trou de la serrure. Le noir total. Alors, il avait fait demi-tour. Dans la cuisine dernier cri, où il se sentait comme chez lui, il s'était servi un verre de limonade avant de s'asseoir à sa place favorite, sur la chaise, placée près de la fenêtre. L'autre chaise était celle de Francesca, et il avait l'impression que le simple fait de la déplacer aurait porté malheur. Il avait patiemment attendu l'arrivée de sa belle, désinvolte dans son pyjama de soie, comme il l'aimait. Quelle déception ça avait été quand une Polonaise blondasse, vêtue d'un survêtement et d'un petit top, avait fait son apparition dans la cuisine. Elle l'avait pris par la main en lui adressant un sourire froid. Dépassé par la témérité de l'inconnu, il n'avait pas osé demander où était Francesca. Même après avoir plus ou moins repris le dessus, il n'avait pas réussi à protester, s'interdisant de blesser ou d'offenser la jeune fille. De toute évidence, elle était animée des meilleures intentions du monde, et la vie ne l'avait sans doute pas gâtée. « Tu viens d'où ?» lui avait-il demandé. « Poland, » avait-elle répondu. À sa façon soumise de procéder et à son réel manque de confiance en elle, Eddie avait d'abord eu l'espoir qu'elle était en réalité la nouvelle femme de ménage. « Ok, » avait-il dit, « moi je suis Eddie, de Belgique. » Leur conversation s'était arrêtée là. Il avait très vite perdu tout espoir que cela ne soit qu'un bref échange avec la femme de ménage. Et il s'était retrouvé dans une chambre petite, mais agréable, placée sous la protection de plusieurs crucifix, à fixer les gros mollets de la Polonaise et à garder ses protestations pour lui. Elle était tellement différente de Francesca. Francesca était adorable, avec ses boucles de cheveux châtains et ses yeux mouillés, qui vous faisaient vous sentir désiré. Elle jouait un rôle, bien sûr, Eddie s'en rendait compte. Il n'était pas débile, il avait un diplôme d'ingénieur. Mais quand même, toutes les femmes n'accueillaient pas à bras ouverts, dans leur lit, un informaticien dégarni, au ventre bedonnant, avec un corps en proie à un eczéma ingérable. Pour Francesca, tous ces petits défauts n'avaient aucune espèce d'importance. Elle nourrissait de réels sentiments à son égard. « Tu sais où est Francesca ?» avait finalement demandé Eddie. « Interview travail », avait grommelé la reine de glace. Eddie n'avait pas mis sa parole en doute, même si la plupart des filles disaient n'importe quoi pour ne pas avoir d'ennui, pour couper court. Elle cherchait avant tout à vous pomper votre fric et à se tirer. C'était une des certitudes d'Eddie, avant que Francesca n'entre dans sa triste vie de célibataire. La Polonaise lui avait demandé de se déshabiller et avait montré l'exemple. Alors qu'il avait commencé à se déshabiller, à contre-cœur, parce qu'il préférait qu'on le fasse pour lui, il sursauta. La sonnette venait de retentir, ce qui annonçait l'arrivée d'un autre visiteur, malgré l'heure matinale. Ça avait troublé Eddie, mais il était parvenu à contenir sa peur. La Polonaise était restée assise sur le bord du lit, prise d'un doute. Lorsque la sonnette avait retenti, une seconde fois, elle avait marmonné quelque chose en polonais avant de se diriger vers l'interphone. L'homme s'était présenté et avait demandé Francesca. C'était du moins ce qu'Eddie pensait avoir compris des bribes de conversation qu'il avait captées, car en pensée, il était avec Francesca. Sans elle, il se sentait seul et même un peu frustré. Elle le mettait à l'épreuve. Où était-elle ? Elle savait pourtant qu'il allait venir, comme tous les jeudis matins. Or, la Polonaise avait dit qu'elle était en rendez-vous. Pourquoi ? Se demanda Eddie, taraudé de soupçons, malgré sa conviction que toute relation de qualité s'appuyait sur la confiance mutuelle. Était-elle malade ? Voulait-elle augmenter son personnel ? Non, elle le lui aurait certainement dit. Était-elle occupée à régaler un autre client ? Un client plus important que lui ? Cette pensée écœura Eddie. Mais il se reprocha aussitôt de juger quelqu'un en se basant sur de simples suppositions. La jeune Polonaise avait raccroché l'interphone et était revenue s'asseoir sur le lit, l'air morose et sur ses gardes. « Ça va ?» avait demandé Eddie. elle n'avait de nouveau pas été très communicative, mais elle avait quand même fait un petit signe distrait de la tête. « C'est mieux que rien », avait pensé Eddie. Il avait profité de l'occasion pour tenter d'en savoir plus. « Tu sais où est Francesca ?»« Non, monsieur, je passe à voir », avait répondu la Polonaise têtue, mal à l'aise, presque agressive. Après quoi, elle était revenue s'asseoir sur le lit. Et là, sans prononcer un mot de plus, elle avait descendu son caleçon de chez Avon. Chapitre 7. Francesca d'Abruzzo se sentait faible. Elle grelottait, mais ce n'était pas de froid, et encore moins de fièvre. La belle Italienne regarda Mandarine, son adorable poisson rouge. Il ne remuait plus, hormis ses branchies qui s'ouvraient et se refermaient à un rythme accéléré. Quel endroit détestable, quelle puanteur et quelle saleté. Le spectacle de l'agonie de Mandarine lui était insupportable. Elle se traîna à quatre pattes dans sa direction. Une latte du plancher craqua. Tout son corps fut parcouru de frissons. Instinctivement, elle sentait la présence d'un prédateur, à l'affût. Au moment même où elle allait ramasser le poisson rouge, il s'envola dans les airs, catapulté sans pitié par la pointe d'une chaussure. Les poissons ne ressentent pas la douleur, c'est connu. Francesca voulut rétorquer quelque chose, mais elle ne parvint pas à articuler le moindre mot. Il faut dire qu'elle était émue aux larmes. Il faut dire aussi qu'un bâillon l'en empêchait. Elle fixait le soulier qui frappait le sol, en mesure. Elle ne comprenait pas. Les êtres humains, par contre, la pointe de la chaussure décolla du sol. La semelle devint une tache noire. L'instant d'après, la vue de Francesca se brouilla dans une explosion de rouge parsemée d'éclats jaunes et bleus, fluo. Lorsque sa nuque heurta le plancher, elle ouvrit grand la bouche pour crier, mais ne parvint à émettre qu'un faible râle. Elle resta au sol, tordue de douleur, étourdie par une terrible nausée. Cherchant à reprendre son souffle, elle ne sentit que l'amertume de la bile dans sa bouche. Prise de haut le cœur, elle aperçut Mandarine. On aurait dit un jouet en plastique. Son œil sans vie lui lançait un regard, lourd de reproches. Si elle s'était laissée faire, le poisson serait toujours en vie. Elle se figea, terrassée, à l'idée qu'elle devait d'être toujours vivante au fait d'avoir sacrifié son poisson rouge. Elle parvint à contenir ses larmes, prenant conscience qu'elle devait prendre le dessus, se relever, se montrer forte, se battre, riposter. Pas uniquement pour elle, mais pour Mandarine aussi. « C'est ta dernière chance. Alors, sale pute, tu le fais ?» Francesca secoua vivement sa tête. Elle avait le goût du sang dans la bouche. Les chaussures se rapprochaient. Elle recula à croupetons vers la fenêtre, à la manière d'un crabe. Les chaussures continuaient à se rapprocher, lentement, inexorablement. Francesca tendit le bras. Un foulard claqua et émit un son chantant, comme si quelqu'un avait pincé une corde de guitare électrique non amplifiée. Sa main se raidit. « Sale sorcière !» Francesca essaya de continuer sa progression. Elle touchait maintenant le mur glacial. Elle n'avait plus aucune issue. Elle se dit que ce n'était pas grave, qu'elle faisait sans doute un cauchemar un peu bizarre, qu'elle ne tarderait pas à se réveiller. Mais le coup tomba, dur et précis, au beau milieu de son bas-ventre. Elle ne ressentit aucune douleur, seulement de l'horreur et de l'incompréhension, et poussa en silence un cri de désespoir et d'effroi. De l'urine chaude dégoulina le long de ses cuisses, à moins que ce ne fût du sang. Machinalement, elle glissa ses mains vers son ventre. Le visage était tout prêt maintenant. C'était un masque étincelant, aux yeux de verre. Francesca remarqua une veine saillante au niveau du cou qui lui évoqua un ver de terre gluant. Les associations d'idées se firent à toute vitesse dans sa tête, et elle eut subitement la certitude que sa mort était imminente. Une odeur de cuir flottait dans l'air, et elle sentit que les doigts de l'autre puaient la nicotine et le goudron. Le foulard se remit à claquer. Par réflexe, Francesca leva le bras gauche et toucha sa gorge, du dos de la main. Elle était devenue son poisson rouge. Comme lui, elle happait l'air en vain. L'autre enfonçait un genou sur sa poitrine. C'était comme si elle était écrasée sous un bloc de béton. Pour se libérer de cette sensation oppressante, elle voulut donner un coup de pied et se dégager, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Elle vit le plafond se rapprocher lentement. La pièce fut d'abord comme coupée en deux, puis elle se mit à rétrécir, de plus en plus. Francesca suffoquait. La soie se resserra sur sa main, lui coupant la peau. Elle tenta d'étirer les doigts, en vain. Elle résistait de moins en moins. Puis, quelque chose en elle céda. Ses paupières se firent incroyablement lourdes. Tout devint blanc. Pas noir, mais blanc. Elle vit en pensée un cercueil d'un blanc éclatant, tout petit. Il était recouvert d'un petit suaire, immaculé, orné de franges et de fleurs de lys. Il y avait des enfants aussi. Elle n'aurait jamais d'enfants. Une tristesse immense s'abattit sur elle. Jamais d'enfants. Ce fut probablement sa dernière pensée. Chapitre 8. Soudain, des voix s'élevèrent dans la pièce d'à côté. On aurait dit que des gens se disputaient. Eddie tendit l'oreille. « Restez ici, » disait un homme d'une voix dure. Ça ressemblait à un ordre. « Allez vous faire foutre !» criait quelqu'un d'autre. Il s'ensuivit une bordée d'injures, après quoi une porte claqua dans le silence. Visiblement mal à l'aise, la Polonaise se leva pour prendre son téléphone dans son sac à main. Paniquée, Eddie se demanda combien d'hommes se trouvaient dans le bâtiment, en définitive. Il déglutit avec peine et jeta un regard à son entrejambe. Son pénis déviait franchement vers la gauche. C'était horrible à voir. Était-ce parce qu'il était droitier ? Il avait gardé ses chaussettes. Cela ne l'arrivait jamais, au grand jamais. Lorsque la Polonaise revint s'asseoir sur le bord du lit, après une vaine tentative pour appeler quelqu'un, sans doute Francesca, l'érection d'Eddie s'était évanouie. Stress et sexe n'avaient jamais fait bon ménage chez lui. « Que se passe-t-il » bégaya-t-il. « Il y a un problème ?» La porte s'ouvrit dans un fracas assourdissant. Sous le choc, des bouts de plâtre tombèrent du mur. La Polonaise plaqua ses mains sur sa poitrine, ce qui la fit ressembler à un buste de musée. « Vous deux, vous me suivez !» ordonna l'homme qui s'encadrait dans toute la largeur de la porte. C'était un rouquin au nez aristocratique, avec des joues bien rebondies et de petits yeux perçants. « Vous vous habillez et vous me suivez, tout de suite, tous les deux. Police !» Eddie ne s'était jamais levé d'un lit aussi précipitamment. Il enfila son caleçon en quatrième vitesse. Alors qu'il cherchait désespérément sa chemise et son pantalon, le policier s'approcha en ricanant. « Je ne suis pas marié, » bafouilla Eddie. Pourquoi ces mots étaient-ils sortis de sa bouche ? Il n'en avait aucune idée. Ce dont il était sûr, c'est qu'il éprouvait de la honte. Le policier attrapa rudement la Polonaise par le bras. « Tu as un permis pour exercer ce beau métier ?»« Sorry, » balbutia la jeune femme qui avait subitement l'air d'une petite chose fragile. « Ton nom, comment tu t'appelles ?»« Cesca, » bafouilla la Polonaise. « Ta carte !» ordonna froidement le flic. De profil, il ressemblait à un oiseau, peut-être un rapace, avec son long cou tortueux. « Moment, please !» dit la fille, qui semblait s'être reprise et qui s'y dirigeait maintenant vers la commode. « Pas de problème, monsieur. » Elle ouvrit son sac à main et d'un coup, elle fila dans le couloir, pieds nus, dans son déshabillé, mais en tenant fermement son fourre-tout. La manœuvre prit Eddie totalement au dépourvu. Le policier aussi, apparemment. Il jura, hésita un instant, fusilla Eddie du regard et fila, en prenant juste le temps de dire « Ne bougez pas d'ici !» Au moment où le flic s'engageait dans le couloir, la porte d'entrée claqua violemment. Eddie se recroquevilla un peu plus sur lui-même quand il entendit le policier pousser de nouveaux jurons et envoyer un gros coup de pied dans la porte. Pendant quelques secondes, il n'y eut plus le moindre bruit dans la maison. La Polonaise avait vraisemblablement eu la présence d'esprit de retirer la clé de la serrure et de verrouiller la porte de l'extérieur. Et le policier ignorait que la clé de réserve était pendue au petit crochet. À l'extérieur, des pneus crissèrent sur les graviers. Le policier maudit sa malchance. La Polonaise avait filé. Quelle présence d'esprit, pensa Eddie. Quelle maîtrise. Il se sentait incapable d'avoir de tels réflexes de survie. Mais la situation avait du bon. Si ce policier se lançait malgré tout à la poursuite de la Polonaise, lui pourrait tranquillement ranger ses petites affaires et quitter les lieux, bien peinard. Eddie enfila son pantalon à la hâte et sautilla sur un pied jusqu'à la porte. Ses espoirs s'évanouirent aussitôt. Il entendait des pas pressés dans le couloir. Il en était à tenter maladroitement de refermer sa braguette lorsqu'il faillit prendre la porte en plein visage. Le policier le saisit par l'épaule et le poussa à l'extérieur de la pièce. « On termine de s'habiller et on me suit. » La porte se referma. Chapitre 9. Le policier déverrouilla la porte et d'un signe ferme de la main, fit comprendre à Eddie qu'il devait entrer. Eddie obéit docilement et étudia l'espace autour de lui. C'était la première fois qu'il voyait cette pièce. Elle ressemblait à la salle d'attente d'un médecin. Quatre chaises, une table basse sur laquelle étaient posés des magazines, une bouteille d'eau plate en verre et quelques gobelets en carton. Il y avait déjà trois autres personnes dans la pièce. Une femme élégante en tailleur rose et un homme d'affaires au veston orné d'une pochette étaient assis côte à côte contre un mur. L'homme dévisagea Eddie tandis que la femme continuait à fumer nerveusement sans paraître le voir. C'était comme s'il n'était pas là. L'homme d'affaires adressa un sourire à la belle. Elle leva les yeux au ciel d'un air contrarié. Face à eux, une silhouette se détacha du mur. C'était un type pas très net, chaussé de grosses bottines de travail. Il portait un t-shirt délavé, une chemise ouverte avec de grandes poches sans rabat et un pantalon à l'entrejambe ample et aux genoux renforcés. L'ensemble tenait grâce à une ceinture recouverte par plusieurs plis de graisse. « Je me barre, Vergowen !» aboya le rude gaillard en se rapprochant dangereusement. Eddie tenta de s'éloigner de la zone de conflit en allant s'asseoir contre le mur, en face des deux autres. Pris d'un mauvais pressentiment, il vit le policier attraper le gars mal rasé par le bras pour l'empêcher de quitter la pièce. « Tu vires tes sales pattes de là !» hurla la brute en repoussant la main du policier. « Sale ripou !» Le policier ne réagit pas, mais il ne céda pas non plus. « Ne complique pas les choses plus qu'elles ne le sont déjà, de Storm, et va t'asseoir, » dit le policier sur un ton incroyablement tranquille. « J'irai m'asseoir quand je veux. » Pendant que les deux hommes se regardaient en chien de faïence, Eddie ramena ses mains sur ses genoux, puis essaya fébrilement d'arranger les boutons de sa braguette. Ce fut à ce moment-là qu'il se demanda qui étaient ces trois personnes et ce qu'elles faisaient là. Il trouva la femme trop belle et l'homme trop élégant, ce qui l'intrigua au plus haut point, mais il n'osa pas les dévisager davantage. Et puis, qui était cet ours mal léché? Il sursauta. Le policier venait de quitter la pièce et de claquer la porte derrière lui. Eddie l'entendit verrouiller la serrure de l'extérieur. Dominique de Storm tremblait de colère contenue. Il regarda autour de lui, ce qui fit baisser les yeux au bouffon assis dans le coin. Il ignora les deux autres losers, une pute de luxe et son Mac, rasé de près. De Storm se dirigea d'un pas lourd vers le petit bonhomme, au crâne dégarni, dont la chemise pendait hors de son pantalon et qui s'évertuait à fuir son regard. Il se planta devant lui, les mains dans les poches de son bleu de travail. Eddie leva les yeux, d'un air craintif. Comme l'autre le fixait éhontément, il se leva et fit nerveusement un pas de côté. De Storm se laissa tomber sur la chaise d'Eddie. Lorsque celui-ci voulut s'asseoir sur la dernière chaise libre, la brute y allongea ses jambes. Chapitre 10. La porte s'ouvrit sur le policier. Il alla s'appuyer contre le mur et entreprit d'étudier avec morgue les quatre personnes présentes. « Madame, messieurs, je voudrais votre attention, commença-t-il. Comme je vais probablement être votre hôte pour un petit moment, je propose que nous fassions connaissance. Je m'appelle Pierre Vergowen, inspecteur de la zone de police d'Uccle, et je voudrais connaître votre identité et le motif de votre présence ici. » Tout le monde se regarda. « Vous, monsieur, » ajouta Vergowen en plantant son badge sous le nez de Marc Donden. « Je m'appelle Marc Donden. Je suis représentant en électroménager et j'ai un rendez-vous avec Madame d'Abruzzo. » « Moi aussi, » dit précipitamment la femme élégante. « Je m'appelle Elsa Quiscater et je représente un bureau d'architecte. C'est pour ça que... » « Pour ça que quoi ?» s'enquit Vergowen. « Pour ça que j'avais moi aussi un rendez-vous avec Madame d'Abruzzo. » Le policier fronça les sourcils et son regard se posa sur la personne suivante. « Eddie Tiampon, ingénieur. Je suis un très bon ami de Francesca. » Le policier fronça encore plus les sourcils. « Nous étions ensemble à l'école primaire, ajouta Heidi précipitamment. L'inspecteur de police ne daigna pas lui accorder un regard de plus. Heidi s'attendait à voir l'homme en vêtements de travail enchaîné, mais il demeura silencieux. « Bien, » dit Vergowen, « les règles sont simples. Vous ne sortez pas de cette pièce sans mon autorisation. » Le message, court mais lourd de sens, fit son effet. Un silence de mort s'abattit dans la pièce. Chacun se retrancha en son fort intérieur. Heidi Tiampon s'anima et leva un doigt. « Oui ? Et si je dois aller aux toilettes ?»« En ce qui me concerne, tu peux pisser dans ton froc, » grommela De Storm. « À mon avis, tu as déjà commencé. » Il éclata d'un rire tonitruant, mais s'arrêta net et se racla la gorge quand il s'aperçut que personne ne l'imitait. Ces trois andouilles le dévisageaient comme s'il venait d'une autre planète. « Logique, pensa-t-il, ces gens-là ne sont sans doute même jamais entrés dans un café. Alors, comment pourraient-ils être capables de réagir à une bonne blague ?» Le flic non plus n'avait pas scié. Là, c'était plus embêtant, inquiétant même. Ça craignait vraiment cette histoire. « D'autres questions ? Quelque chose à ajouter ?»« Que s'est-il passé ?» demanda sans détour Marc Donden, revenant les pieds sur terre. « C'est ce que nous tentons de déterminer, » répondit le policier, habile, quand il s'agissait de tourner autour du pot. « Et combien de temps pensez-vous pouvoir nous garder ici ?» reprit Donden, sans se laisser démonter. « Comment ça, combien de temps je pense pouvoir vous garder ici ?» répéta Vergowen en haussant les sourcils. La moquerie contenait une menace, à peine voilée. « Il se prend pour qui, ce flic ?» se demanda Donden. « Combien de temps ? Aussi longtemps que le nécessitera l'enquête. » Elsa Quiscater avait aussi son mot à dire. Ses doigts trituraient nerveusement le col de son tailleur. « Excusez-moi, inspecteur, mais je ne pense pas avoir ma place ici. Je me suis trouvé là par hasard et... Tout le monde est ici par hasard, mademoiselle. D'autres questions ? Mon avocat est-il déjà... Nous ne sommes pas aux États-Unis, mademoiselle. En Belgique, c'est le juge d'instruction qui décide. Et je n'ai pas encore pu l'avoir au téléphone. D'autres questions ? Quelque chose à ajouter ? Demanda Vergowen sur un ton qui indiquait clairement qu'ils avaient tous intérêt à tenir leur langue. L'inspecteur se dirigea vers Dominique De Storm, de retira la chaise libre de sous ses jambes et d'un signe ferme de la main invita Heidi Tiampon à prendre place. Il alla ensuite se planter devant De Storm d'un air décidé, les jambes légèrement écartées. « J'exige un minimum de savoir-vivre, De Storm, » dit-il plus bas. Les deux hommes se fixèrent, dans le blanc des yeux. La tension était palpable. Heidi, qui ne s'était pas encore assis, se décida à le faire, ce qui le fit inconsciemment prendre parti pour le chef de meute. « On a le droit de téléphoner chez soi ?» demanda Heidi pour faire baisser la tension qui devenait réellement oppressante. L'idée de se savoir coincé là comme du bétail qu'on s'apprête à mener à l'abattoir le rendait fou. « Plus tard, » répondit Vergowen. « Mais puisqu'on en parle... » Il sortit un sac en plastique transparent avec fermeture zip de la poche de sa veste. « De Storm, rends-toi utile et rassemble les téléphones et les cartes d'identité de ces messieurs-dames. »« Pourquoi moi ?»« Parce que c'est toi qui as les plus grosses paluches, » répondit le policier d'une voix calme, sans la moindre trace d'ironie. Alors qu'Eddy extirpait nerveusement son portefeuille de sa poche arrière et qu'il sortait de ses doigts fébriles sa carte d'identité dessous la protection plastifiée tout usée, celui de De Storm s'écrasa au sol, suivi de son téléphone, une relique indestructible qui semblait datée de Mathusalem. Vergowen ne réagit pas à la provocation, mais ne fit pas non plus mine de ramasser les objets. « Fais ce que je t'ai demandé, De Storm, » dit-il sur le même ton calme mais déterminé, « et tiens-toi à carreau. » Il savait rester imperturbable en toutes circonstances. « Après ça, je vous laisse tranquille, » reprit-il. « Plus vite je peux commencer à travailler, plus vite vous pourrez rentrer chez vous. »« Putain d'enfoiré !» grommela De Storm en obtempérant. Il ramassa ses affaires et arracha la carte d'identité des mains d'Eddie. Marc Donden s'était levé pour tendre ses effets et ceux de sa voisine. Il savait se montrer courtois. À De Storm. Celui-ci se tourna d'un mouvement impatient vers Eddie. Eddie sentit le rouge lui monter aux joues. Il palpa frénétiquement les poches de son pantalon, puis ses cuisses. « Mon téléphone est resté dans ma veste, » finit-il par dire, « et je l'avais accroché au porte-manteau, dans la chambre. »« Ne vous tracassez pas, je le trouverai, » commenta le policier d'une voix apaisante. l'inspecteur Vergoen ouvrit son sac en plastique, invitant De Storm à y déposer sa collecte. Il se dirigea ensuite lentement vers la porte. Le flic sortit de la pièce.
Voilà 5 personnes bien différentes enfermées dans la maison de Francesca. Mais qui lui a fait du mal? Et comment va évoluer la situation? À vous la suite.